Vous écoutez
RMC. RMC, les grandes gueules du sport. 9h midi.
Jean-Christophe Drouet.
10h06 de retour dans les grandes gueules du sport. Votre rendez-vous le samedi, le dimanche de 9h à midi avec ce matin Simon Dutin, Olivier Giraud, Marie Martineau. Merci de votre fidélité. Si vous avez raté la première heure, comme d'habitude, précipitez-vous sur le podcast. Nous faisons un carton avec nos podcasts RMC Sport, toutes les différentes applications. N'hésitez pas à écouter la première heure où on a évoqué le Tour de France avec Pogacar notamment. Est-ce qu'il peut renverser le Tour de France? Les GG n'étaient pas d'accord. Dans quelques instants, la punchline des GG signée Benoît Paire, qui s'est confié sans détour cette semaine sur l'alcool, son mental, son désamour du tennis. Croyez-vous au nouveau Benoît Paire? 10h30, deux institutions au bord du gouffre, les Girondins de Bordeaux et l'élan béarnais, tous les deux rétrogradés en National 1 par les gendarmes financiers. Ces gendarmes font-ils du mal au sport français? Ce sera notre question. Et puis 11h, la seconde des GG autour des lofters du Paris Saint-Germain. Ces joueurs indésirables restés à quai, restés à Paris, alors que le groupe entame une tournée au Japon. Est-ce que ça vous choque, ce traitement des lofters? Vous devrez répondre, les GG, à cette question. Et puis, quelque chose à vous annoncer, chers auditeurs. C'est très important. Écoutez-moi bien. C'est le moment de jouer pour un cadeau exceptionnel sur RMC. Avis aux amateurs de Formule 1, de sensations fortes. Ce week-end, dans les grandes gueules du sport, nous vous offrons avec Alpine des places pour le samedi 23 et dimanche 24 juillet pour le Grand Prix de France de Formule 1. Allez, sur là, le circuit Paul Ricard au Castellet. Au programme, Alpine vous offre l'accès aux loges privatives pour vous retrouver au cœur du Grand Prix de Formule 1, un accès VIP à la Skybox juste au-dessus de la tribune Alpine et en face du virage Alpine pour une expérience unique. Pour jouer, il faut vous inscrire en envoyant VIP par SMS. VIP au 732-16. VIP au 732-16. C'est la semaine prochaine, le Grand Prix de Formule 1, et c'est juste pour vous, les auditeurs. Alors c'est peut-être le début de quelque chose, une prise de conscience qui pourrait faire le bonheur du tennis français. Cette semaine, Benoît Paire s'est confié à Brut sur sa dépendance à l'alcool, son désamour pour le tennis, mais également l'aide qu'il reçoit aujourd'hui d'un hypnotiseur et d'un psychologue. Le désormais 77e joueur mondial traîne sa misère depuis 2 ans et enchaîne les tournois. Pour la plupart du temps, il faut bien le reconnaître, sortir dès le premier tour. Mais ça, c'était avant. Benoît Paire, la punchline des GG.
RMC, la punchline GG. RMC, la punchline GG.
Tous les sportifs un petit peu du dimanche se reconnaissent en moi. J'ai besoin de voir mes amis, j'ai besoin de sortir. J'aime boire mon petit verre d'alcool. Voilà, ça me fait du bien. J'aime faire un petit barbecue l'après-midi, être posé au bord de la piscine, rien faire, ne pas faire de sport, pas faire de tennis. Après, ce qu'il faut, c'est arriver à trouver le juste milieu, à faire aussi la fête, mais aussi à être sérieux et à bien préparer les tournois. Donc, c'est ce que j'ai un peu plus de mal à faire en ce moment. C'est pour ça que là, je vais repartir à zéro. Ça fait 2 jours que j'ai pas bu d'alcool, donc voilà, je suis en pleine cure.
La musique qui fout les jetons, et cette question après cette punchline cette semaine de Benoît Paire. Croyez-vous au nouveau Benoît Paire? Oui ou non? Simon Dutin.
Non.
Marie Martineau.
Non.
Olivier Giraud.
T'as dit que c'était une punchline.
Oui.
C'est pas une punchline. Non, bah non.
Non.
Bah non.
J'ai que du non.
Ouais.
Bah oui, moi j'y crois.
T'inquiète, il va y avoir des nuances.
Moi j'y crois, je vais vous rentrer dedans quand même. Avant de débattre, on va retrouver notre journaliste RMC Sport, spécialiste tennis, Ilia Grandjean. Salut Ilia.
Salut tout le monde.
Salut,
c'est vrai que depuis la crise sanitaire, Benoît Paire n'arrive pas à sortir du tunnel.
Oui, depuis février 2020 et l'arrivée du Covid dans nos vies sur le circuit professionnel de tennis, la carrière de Benoît Paire ressemble plus à ça.
J'arrive de rentrer chez moi. Libérez-moi. J'en peux plus d'être ici.
Sur les 3 dernières saisons, le Français, c'est 30 victoires, 74 défaites. 43 fois, l'Avignonnais a perdu d'entrée dans un tournoi. Pourtant, début 2020, Benoît Paire joue bien. Une finale à Auckland, une défaite au deuxième tour, certes, de l'Open d'Australie, 7-6 au cinquième set contre Marin Cilic. Et puis le Covid, l'annulation des tournois, l'isolement, les entraînements seuls dans son coin et ses lives Instagram avec Stan Wawrinka.
Je vais mettre vodka, je vais mettre du citron, je vais mettre tout ce que j'ai chez moi en fait.
Bah ouais, mais pas trop.
Et si je mettais un peu de sirop d'orgeat? Un petit peu de sirop d'orgeat avec du citron. J'invente un truc quand même, parce que la vodka avec le sirop d'orgeat, je connais pas.
Les fameux Stan Perrault. Benoît Paire le confesse aux Suisses, il n'arrive pas à se motiver, à se faire mal, à s'entraîner seul dans cette période. Il exprime sa frustration de jouer dans des stades vides. Il est sauvé par le gel du classement. 18e mondial en 2016, il est 77e aujourd'hui, il serait beaucoup plus loin dans un circuit normal. Il se fait aider car après Wimbledon, il avoue son profond mal-être.
Sur le court, j'ai du dégoût du tennis, donc c'est dur. Depuis Roland-Garros, j'ai dû jouer 3h30 au tennis, peut-être en tout. C'est pas beaucoup pour préparer un grand chelem. Mais dès que je mettais les pieds sur un court, j'avais envie de fuir. Le tennis, c'est le sport que j'aime le plus au monde. Et finalement, en ce moment, c'est le sport que je déteste le plus.
Alcool, désamour, psychologue, une confession donc pour se prendre en main, changer. Et enfin, avant de penser à remporter des matchs, des tournois, simplement reprendre du plaisir sur un court.
Merci beaucoup Ilia, tu restes avec nous pour ce débat. Croyez-vous au nouveau Benoît Paire, le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. J'ai du nom, visiblement, dans le studio RMC. Simon Dutin, pourquoi non ?
J'y sais, je sais pas par où commencer. Benoît Paire, il m'a successivement agacé, attristé, effaré. Encore une fois, on va redire des banalités, mais quel gâchis pour un mec qui a une main pareille, qui a franchement quand le point faible de ton jeu c'est ton coup droit, il y a quand même des choses à aller chercher. Il avait le talent, il y a l'a dit, 18e mondial, c'est pas donné à tout le monde. Il a remporté 3 titres, il se perd complètement, c'est effarant, tu te rends compte, il dit ça fait 2 jours que j'ai pas touché un verre d'alcool, je suis content, je suis en pleine cure, mais faut l'emmener dans des services d'hosto, je sais pas, il sait à quoi ça ressemble, un alcoolique, il y a des gens qui meurent tous les jours, il y a des gens qui ont le foie complètement bousillé, ils ont la gueule toute jaune, et c'est ça des vrais alcoolos, c'est pas ça lui son problème, c'est qu'il aime pas l'effort, il a pas envie d'aller en chier, excusez-moi, sur le terrain, ça a toujours été ça le problème. Je pense qu'il se trompe, essayer de nous faire croire qu'il est en dépression et lancer des faux appels à l'aide. Enfin, excusez-moi, on n'est pas quand même dans le cas d'une personne dépressive. Encore une fois, c'est un manque de respect pour des gens qui
galèrent. Et pourquoi
galèrent.
On serait pas dans le cas d'une personne dépressive ?
Excuse-moi, boire un verre comme il le dit.
Boire
un verre et aimer faire un barbecue avec ses copains. Bon, mais c'est aimer la vie. Il a gagné, je sais pas, quasiment 10 millions de dollars sur le circuit. Mais arrête, va te faire plaisir, viens dans les grandes gueules, il serait excellent, va dans des émissions de débat, va coacher des jeunes.
Je parlais d'une nouvelle grande gueule et on vous l'annoncera évidemment en grande pompe avec des grandes chaussures au mois d'août. Non, c'est pas lui. En revanche, j'ai envoyé un message à son agent pour essayer qu'il vienne dans les grandes gueules et on m'a répondu, attendez, la réponse, je l'ai aimé. Ah oui, c'est désolé, mais nous passons.
Il est aussi efficace quand il s'agit de passer un adversaire qui monte au filet. Non, sérieux, moi, je suis gâchis. Voilà, ce mec, il a un talent fou. Il y a qu'à le voir sortir 15 amortis et rendre fou ses adversaires dans les bons jours. Je parle sous le contrôle d'Ilia. Je veux dire, il y a des mecs qui cognent fort. Il y a des mecs qui ont un service qui tombe de 2m10 de haut et qui remportent la moitié de leurs points comme ça. Lui, c'est pas ça. Il avait un vrai talent. Il a pas eu l'occasion, l'énergie, le goût de l'effort pour le développer.
T'es énervé.
Je suis énervé Simon. Parce qu'il se ment. Je pense qu'il se ment à lui-même. Et il essaie de nous faire croire qu'il n'est pas alcoolique, Benoît Paire. Je pense qu'il n'est pas alcoolique et que son problème n'est pas là.
Mais la meilleure des choses qu'il puisse faire, c'est de se faire aider. Et de ce qu'il dit dans cette interview brute, c'est qu'il le fait. Il se fait aider. Et de quelle manière ? Par plusieurs spécialistes de plusieurs disciplines différentes. Ça peut que l'aider. En tout cas, ça le fera pas aller plus mal. De ce qu'on disent les gens qui le connaissent, c'est un mec assez cool et qui est sympa à vivre et qu'on entretient une espèce de truc sympa dans l'air qui fait que c'est un bon gars quoi. Et
j'en doute. Spleen à la française.
Finalement, j'en doute absolument pas. C'est juste que quand il dit tous les sportifs du dimanche se reconnaissent en moi, non, il peut pas dire ça. Il peut pas dire ça parce que déjà il y a pas mal de sportifs du dimanche qui rêveraient d'avoir le quart de la moitié de son talent, comme tu viens de le dire. Et puis il y a beaucoup aussi de sportifs du dimanche dont c'est le seul moment où ils peuvent évacuer d'une semaine de boulot de dingue et que ils vont courir. Faire faire un tennis, ils sont obligés de se voir avec des copains, de s'organiser pour faire un five ou quoi. C'est leur bon moment de la semaine. C'est des gens qui aiment vraiment le sport, les sportifs du dimanche. Et Benoît Paire, j'ai pas l'impression qu'il aime le sport. Le sport le rend malade, le sport le frustre. En plus, avec ces deux années, c'est vrai que dans l'interview de Brut, on voit, il se retrouve à l'hôtel, on voit ces images. Moi, je les avais jamais vues. Il m'a fait de la peine, vraiment. Je l'ai imaginé 15 jours dans sa chambre d'hôtel où tu peux même pas ouvrir la fenêtre. Franchement, ça faisait rêver personne. Mais voilà, malgré tout ça, on peut pas le plaindre. Il peut pas dire ça. Il y a certainement plein d'autres athlètes qui aiment bien faire un barbecue, voir des potes. J'étais la première à l'être. J'aime bien le champagne. Enfin, mais tu vas pas communiquer là-dessus. Tu prends pas la parole pour dire aux autres, ah, j'adore ça. Non, tu bois ton petit canon. Tes potes, ils savent que t'aimes bien de temps en temps boire. Et par contre, le lundi matin, t'es à la muscu et tu t'arraches.
Peut-être, mais c'est quand même courageux de le dire.
Non, je crois
et de
pas.
L'exprimer.
Je crois pas. Je crois pas que ce soit du courage. Ce qui serait courageux, c'est qu'ils se reprennent vraiment en main, qu'il ait pas besoin d'en faire l'apologie et qu'il arrive sur un tournoi et qu'il nous fasse rêver.
Ok, Olivier Giraud.
Je me suis bien amusé. Non, mais pourquoi? Le truc, c'est le sportif du dimanche. Bon, c'est sûr que ça va choquer tous les sportifs du dimanche. Parce que
non, mais ce qu'il veut, vous comprenez ce qu'il est en train de dire, c'est que après son petit match, ouais, il a envie de se retrouver avec les potes, comme tous les sportifs du dimanche.
Sauf que la différence, c'est que le sportif du dimanche, quand il fait du sport, qu'est-ce qu'il aime ça? Et de voir un sportif de haut niveau qui déteste ce qu'il fait, je pense que ça doit rendre fou tous les sportifs du dimanche, justement. Par contre, écoute, moi j'ai mon avis sur Benoît Paire. J'étais un des premiers à pas comprendre ses réactions. C'était lors des Jeux de Rio, parce qu'il avait pris la place d'un joueur à l'époque. C'était Pouille. De Lucas Pouille et d'arriver au jeu, de dire ah, moi j'ai pas envie d'être là. Il faisait un petit peu ce qu'il voulait, et ce que je trouvais dommage, c'est qu'il y avait peut-être un jeune qui était Lucas Pouille à cette époque-là, qui aurait pris énormément de plaisir, on ne sait pas le résultat qu'il aurait eu, à être là et déjà prendre la place de quelqu'un à ce moment-là sur une des plus grosses épreuves du monde. Et la manière dont il prenait les choses m'avait un petit peu choqué. Donc j'ai été comme toi, Simon, je l'ai pas aimé parce que c'était pas une représentation du sport qui me correspond, mais en même temps le sport ne correspond pas à ce que je pense, hein, seulement. Et donc à force, je me suis habitué à ce personnage et je me suis même posé la question, c'est pas possible, c'est soit le mec il est idiot, soit c'est un génie. Et que tu vois le débat que t'as là aujourd'hui, il a 33 ans et honnêtement je pense que c'est un génie parce que devant lui il y a un mec qui s'appelle Bonzi. Il y a un mec qui s'appelle
Manarino.
Il y a beaucoup de Français devant lui. Est-ce qu'on parle d'eux?
Ah non, mais
ça veut dire qu'il les a éclipsés.
Benoît Paire, ça va rester une légende du tennis français.
C'est une légende.
Il y a aucun souci, mais ce sera pas une performance sur le court.
Non, je t'assure que si.
C'était un gros déconneur. Il aimait
dans son style. Tu verras.
Il avait rien à foutre.
Tu verras que c'est le genre de mec.
Il avait du talent, si.
Pour le coup, petite légende. Pour le coup, pour suivre Roland Garros, là où je vous rejoins un peu, c'est que quand Benoît Paire joue sur un court annexe, il y a la queue pour aller le voir. C'est le joueur sûrement le plus populaire aujourd'hui. Il y a Gaël Monfils. C'est le joueur le plus populaire et tout le monde veut aller le voir.
Ok, Olivier Giraud, tu continues.
C'est un génie. Et que là, on va parler tout à l'heure des footballeurs. Et ben, en fait, ils ont trouvé leur lofter. Et c'est un lofter. Sa vie, c'est la vie d'un lofter. C'est-à-dire qu'il est en train de quand même te raconter que il peut mélanger le poisson et la viande en même temps. C'est-à-dire que j'aime bien faire des barbecues, je m'entraîne un petit peu. En fait, tout ce qui est opposé pour devenir un sportif de haut niveau et performer, lui, il te dit que c'est comme ça qu'il veut y arriver. Donc, et limite, il y a certaines personnes qui vont y croire. Mais c'est fini d'avance. Donc, maintenant, on va suivre. En tout cas, moi, personnellement, je me prends pas la tête avec Benoît Paire. C'est une attraction. Et on a notre attraction. Les Australiens, ils ont leur Kyrgios, mais Kyrgios est capable d'aller en finale. Donc, un petit peu différent quand même. Ils ont leur Kyrgios. Et Kyrgios, c'est une personnalité, qu'on le veuille ou non, même si ça ne nous correspond pas, et ben c'est un mec, quand il rentre sur un court, et il laisse personne indifférent. Le seul truc avec Benoît Paire, c'est qu'à chaque fois, on va espérer qu'il passe un deuxième tour pour pouvoir observer ce qu'il fait.
Kyrgios, c'est final à Wim, hein.
Oui, c'est ce qu'il disait.
Encore une fois, hein,
le pire de tout, tu sais quoi, c'est là que ça te rend fou. C'est qu'il est capable de faire une finale.
Mais ça m'énerve parce qu'il a du talent. Il a du talent. C'est insupportable.
Ouais, c'est insupportable. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur Benoît Paire? C'est vrai.
Oui, juste le fait que c'est lui qui l'est en train de détruire et c'est dommage parce que peut-être qu'un jour il va se réveiller en se disant oh là là, j'aurais pu faire cette carrière-là et je suis passé à côté. Et là, ben j'espère qu'il sera bien entouré à ce moment-là parce que c'est là que ça va être vraiment compliqué pour lui. Et c'est pour ça que la réponse de mon côté c'était non à ta question parce que il est encore pas du tout. Il a encore pas du tout pris conscience de ce qu'il est en train de faire.
Non,
je crois.
Est-ce que vous répondez non aussi par rapport à son âge, par rapport à ses 33 ans? C'est-à-dire que cette prise de conscience à 28 ans, là, on peut se dire qu'il y a quelque chose qui prend vraiment corps.
Non, en fait, moi, je comprends. Il y a que dans le sens que je t'ai donné tout à l'heure, où il est dans son personnage que cette prise de parole a un intérêt. Tout sportif, n'importe qui, même sportif du dimanche, comme il le dit, savent que c'est n'importe quoi ce qu'il raconte. C'est impossible. C'est-à-dire qu'à un moment, quand tu veux être le meilleur, il y a les autres qui s'entraînent. Si toi, tu penses que tu peux faire des barbecues, boire des coups, t'as pas bu depuis deux jours, le truc de dingue, et que tu peux réussir, non, c'est impossible. C'est impossible. Mais par contre, honnêtement, c'est drôle.
Voilà, dans Andy Murray, il a quoi? Il a plus de 35 ans, il a plus de hanches, bon, et au moins il se bat, il perd contre des mecs contre qui il aurait jamais
perdu.
Oui,
mais n'oublie pas.
Mais je veux dire, il a cet appétit, il a cette envie, et quand bien même, il gagnera peut-être plus jamais de tournoi du Grand Chelem, il y va, il est complètement committed, comme disent les Anglais là-dedans. Il est à fond. Moi, je pense qu'à ce titre-là, l'âge de père, si, comme dit Marie, il allait bouffer de la muscu, bouffer du cardio, bouffer de l'endurance, et en travaillant un petit peu sur les aspects un peu faibles de son jeu, je suis sûr que jusqu'à 35, 36 ans, il pourrait faire les meilleures performances de sa carrière avec le talent qu'il a.
C'est quoi, Simon? En fait, ce qu'on est en train de découvrir avec la surcommunication aujourd'hui, parce que les tennisman, les sportifs, aujourd'hui, on ne parle plus seulement de leur jeu, de ce qu'ils sont, tu sais, un petit peu le truc iconique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a passé cette frontière et que eux, volontairement aussi, ça fait partie du jeu aujourd'hui, c'est que les à côté, ce qu'ils sont, leurs émotions, leurs dégoûts, ils en parlent, leur dépression. Ce qui fait que on est en train de découvrir quelque chose d'assez particulier parce qu'on voudrait un modèle unique, c'est à la Federer, bien coiffé, tout ça, et qui fonctionne. En fait, le sportif, il n'est tout simplement que la représentation des caractères des gens dans la vie.
Olivier, on a suffisamment dit.
Et donc Benoît Paire, il y a des Benoît Paire dans la vie, il y en a.
On a suffisamment.
Et en fait, tu le découvres, c'est tout.
On a suffisamment dit dans cette émission que justement, on trouvait ça formidable, les mecs qui bousculent un peu les codes, justement, qui s'embrouillent entre eux, qui disent des gros mots, qui justement cassent un petit peu les codes imposés par l'ATP et les règlements. À chaque fois, on convoque McEnroe et tous les mecs de cette génération-là parce que on dit c'est formidable pour le tennis, on a besoin de ça, de ces caractères. Donc, on peut pas nous faire ce procès-là. On adore ça, mais en même temps, bon, quand t'as l'impression que ça se fait au détriment du travail, de la motivation et là, c'est incontestable des résultats. Bah, au bout d'un moment, tu dis bon, faudrait quand même équilibrer un petit peu les choses.
Moi, en termes de vieil adulte, ça me dérange pas. Ça me dérange pas du tout.
C'est le vécu, ça.
Non, ce qui me dérange, c'est que. Si tu prends le postulat que le sportif de haut niveau aussi une représentation des gamins qui vont vouloir faire du sport, celle-là, elle n'est pas très bonne.
Mmh. 10h24, voilà ce que l'on pouvait vous dire sur Benoît Paire. Autre chose, je vous le disais, ça c'est officiel, Benoît Paire n'intégrera pas la bande des GG la saison prochaine. Voilà, ça c'est plutôt une certitude. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour vous parler des gendarmes financiers qui ont fait du mal et qui font du mal à deux institutions du sport français. Les Girondins de Bordeaux et Pau Orthez, les Lambernais en basket. Les gendarmes financiers font-ils du mal au sport français? Ce sera notre question. Nous serons avec une chercheuse universitaire spécialiste justement de l'ADNCG. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi,
les grandes gueules du sport. RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h29 de retour dans les grandes gueules du sport, votre émission le samedi, le dimanche de 9h à midi. Vous êtes sur la route des vacances, pas de panique. On vous accompagne toute la matinée avec nous sur RMC. Toujours Simon Dutin, Olivier Giraud, Marie Martineau, le casting des grandes gueules du sport ce matin. Dans une dizaine de minutes, le zapping des GG, on s'en fout pas. Oh, j'ai du golf à vous proposer.
Ah.
Mais malheureusement, une mauvaise nouvelle et mon cœur saigne. Hein. C'est terminé pour Tiger Woods à The Open, le quatrième grand chelem de la saison. Voilà, vous me direz si ça vous intéresse ou non. Et vous l'écouterez si ça vous intéresse, car il a parlé. qu'on pouvait imaginer peut-être une retraite, pardonnez-moi, du Tigre. Il n'en sera rien. Voilà, vous me direz si ça vous intéresse ou pas. Sinon, j'ai d'autres informations, hein, mais vous le savez, le golf, ça me tient particulièrement à cœur. Deux monstres du sport français sont en péril. En foot, les Girondins de Bordeaux, rétrogradés administrativement en National 1. En basket, Pau Orthez, vainqueur de la Coupe de France et demi-finaliste du championnat de France cette saison, rétrogradé également pour des raisons financières en National 1. Deux décisions prises par les gendarmes financiers du foot et du basket. Valentin Germain, notre journaliste de la rédaction RMC Sport, est avec nous. Salut Valentin.
Salut les grandes gueules du sport, salut à tous.
Alors,
salut,
que reprochent concrètement ces deux gendarmes financiers à ces deux historiques du sport français?
Alors, pour les Girondins, la DNCG, gendarme du foot, a rétrogradé le club en N1 mi-juin parce qu'il n'avait pas réduit son déficit de 40 millions d'euros. C'était attendu un peu, hein, parce que c'était trop tôt pour Bordeaux, qui a donc fait appel. Et en appel, la DNCG confirme cette rétrogradation. Pourquoi? Parce que Bordeaux dit, pour résumer, regardez, on a 10 millions de plus investis par le président Gérard Lopez, plus l'argent du fonds CVC qui va prendre des parts dans la Ligue, plus 8 millions sur un transfert de Tchouaméni au Real, plus un prêt consenti par un des actionnaires en attendant des ventes de joueurs. Problème, sur tout ça, tout ce que je viens de vous citer, il n'y avait que 10 millions d'euros réellement bloqués sur un compte, et ça n'a pas rassuré la DNCG. Autre élément en plus, hein, le club doit aussi à ce moment-là une lourde dette à ses deux créanciers que sont King Street et Fortress à moyen terme. Donc, troisième étape, Bordeaux s'est tourné vers le CNOSF, rendez-vous fixé jeudi prochain, avec un dossier, nous dit-on, renforcé. Lopez, le président, aurait finalement bloqué maintenant 24 millions sur un compte et la dette a été réduite de 75%. Voilà beaucoup de chiffres, et si un avis favorable du CNOSF, alors Bordeaux se tournera une dernière fois vers le comité exécutif de la fédération. Sinon, il y a un gros risque, ce qui est quasiment sûr, de liquidation et de repartir en N3. Concernant l'élan Bernet en basket, le club est également donc rétrogradé en N1 à cause d'un déficit qui est 3 millions d'euros. Club passé sous pavillon américain depuis un an. Le groupe se nomme CSG. Les finances à l'époque étaient saines, mais la situation s'est dégradée très rapidement. Il y a eu de gros ratés au niveau marketing. Et le président David Otto, lui, fait des promesses. Il veut régler ce déficit en accueillant des investisseurs, en vendant des NFT, pour résumer, crypto-monnaie. Il y a un volet immobilier aussi autour du Palais des Sports, mais pour l'instant, il ne met pas vraiment concrètement la main à la poche. Et ça embête le gendarme financier. Résultat, le club peut disparaître même si des offres se montent pour un rachat. Le club qui a également annoncé sa volonté de faire appel auprès de la fédération. On peut citer un dernier exemple, JC, c'est le club de Nice en handball, en péril, rétrogradé de 2e à 3e division à cause d'un déficit trop important. L'actionnaire majoritaire est là depuis seulement un an.
Merci Valentin pour toutes ces précisions. Notre question, les gendarmes financiers font-ils du mal au sport français? Oui ou non, Simon Dutin?
Oui, mais je suis pas sûr d'être très objectif.
Toi, le Bordelais, on le rappelle.
Les Béarnais.
Ah oui, en plus, ah oui, accumule. Beaucoup, tu passes un bel été.
Ouais, magnifique.
Marie Martineau.
Ah, c'est dur. Non, c'est un non pour moi.
Olivier Giraud.
Non.
Parti pris pour Simon Dutin. Pourquoi oui?
Oui, parce que j'ai pas l'impression que. J'ai l'impression qu'en fait le football, les sports professionnels, notamment ceux qui sont soumis là à la surveillance et à la toute puissance de la Direction nationale de contrôle et de gestion, ont un peu bon dos quand même, parce que des entreprises qui font faillite, il y en a partout en France. Effectivement, la DNCG, elle a été créée dans les années 80 parce qu'il y avait des scandales, des histoires de caisses noires, des histoires de corruption, des pots de vin, du pognon qui passait sous la table. On n'en est plus là, mais désormais il faut montrer patte blanche. Et effectivement, en fait, la DNCG, elle valide pas les... Elle te dit pas, vous êtes en situation de paiement. Elle te dit, votre plan de financement pour la saison prochaine, il est pas bon. On n'y croit pas. Et nous, on vous dit que ça va pas tenir la route. Valentin le rappelait tout à l'heure, dans le cas de Bordeaux, auquel j'essaie de m'intéresser, mais en même temps, j'avoue que c'est un peu nébuleux parfois, malgré tout. Bon, il y a quand même... effectivement une espèce de méprise de ce qu'est en fait le fonctionnement d'un club de foot. Ils savent qu'il y a des joueurs qui vont pas rester, qui sont d'un niveau Ligue 1. Ils savent que ces joueurs-là ne vont pas rester au club. Ils savent que ça va rapporter de l'argent.
Ouais, il y a quand même les moyens.
Mais c'est de la spéculation. Mais bon, il y a quand même moyen. Je suis désolé. Il y a des sites qui te donnent des sites qui font référence concernant la valeur de certains joueurs. Tu nous prends la louche. Tu vois, tu nous le fais à la louche. Tu nous prends l'estimation basse. Non, mais il faut arrêter. Je trouve que la DNCG, elle est trop stricte avec les clubs et que il y a qu'à voir le tribunal de commerce. Alors effectivement, qui juge les situations de cessation de paiement, a relevé 4 erreurs manifestes dans la décision de la direction nationale de contrôle et de gestion. Donc au bout d'un moment, le tribunal de commerce, c'est pas des mecs qui ont l'écharpe et qui craquent des fumées en tribune. Hein, c'est des professionnels, c'est des commerçants. Hein, c'est des gens qui savent à peu près ce qu'ils font.
Donc, même si j'aime bien l'idée.
J'ai l'impression que non, mais j'ai l'impression que dans cette histoire, quand même. Il y a un côté et je veux pas voilà Valentin
côté anti-Lopez c'est ça
dans le studio quelqu'un dit ou Bordeaux dérange c'est pas Bordeaux qui dérange j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont envie de se farcir Gérard Lopez qui se traîne un peu une réputation d'escroc et on a tendance à mettre un petit peu en doute la parole de Lopez qui dans cette histoire je le rappelle pour Bordeaux à Bondo les Lambernais c'est un petit peu différent c'est quand même des Américains qui ont des plans de financement effectivement bon auxquels on n'est pas habitué en France
bah, avec oui, Gérard Lopez
j'en
aussi
ai un peu t'as le droit de faire faillite, c'est okay. Des sociétés privées comme les autres. Les clubs, si tu fais faillite, tu fais faillite. Voilà.
Ok, avant de vous entendre les deux autres GG, nous accueillons notre invité qui est Nadine Dermide. Bonjour Nadine.
Bonjour à tous. Bonjour.
Chercheuse universitaire, auteure de nombreuses parutions sur l'économie et le fonctionnement du sport, et notamment sur la DNCG. Vous allez nous éclairer sur ces gendarmes financiers. Déjà, à quoi ça sert concrètement?
Ça sert effectivement à s'assurer qu'un club aura les moyens financiers de payer sa saison à venir. Alors, je rejoins tout à fait ce qui a été dit sur le fait qu'un club, comme une entreprise, a le droit de faire faillite. Sauf que il n'a pas le droit de faire faillite en cours de saison. Pourquoi? Parce que, en fait, un championnat professionnel, ça suppose qu'il y ait un certain nombre de clubs, 14, 20, qui se rencontrent tout au long de la saison pour que le championnat ait de la valeur. De la valeur sportive et de la valeur économique. Et par conséquent, il faut que tous les clubs soient là sur toute la saison et qu'il n'y en ait pas un qui fasse faillite en cours de saison. Et la DNCG, elle est là pour s'assurer que l'ensemble de ces clubs vont rester toute la saison à venir. Elle a aujourd'hui effectivement 30 ans d'ancienneté. Ce sont que des professionnels qui en plus se sont renforcés très récemment sur des personnes en compétentes en reprise de club par exemple. Et donc elle va évaluer la capacité du club à financer sa saison à venir. C'est ça son rôle et c'est pour ça qu'elle a été créée.
Nadine, souvent, et ça arrive à chaque mois de juin, juillet, lorsque la DNCG rend ses avis, souvent il y a des clubs qui sont rétrogradés et puis finalement quand on fait appel, quand on passe vers d'autres institutions, bah, les clubs sont repêchés. Est-ce qu'il y a, vous qui avez travaillé sur la DNCG, un petit peu de zèle?
Je dirais pas ça comme ça. En fait, la DNCG, donc c'est une première commission et puis une commission d'appel et puis derrière, vous en avez parlé, c'est NOSF et vocation au Conseil fédéral. En fait, l'objectif de la DNCG n'est pas absolument de sanctionner les clubs. Elle est de dire, nous, on veut des clubs qui soient capables de tenir la saison à venir. Par conséquent, quand la commission de contrôle professionnelle dit, il manque 30 millions, 40 millions pour financer la saison à venir, elle dit aux clubs, trouvez cet argent avant d'aller en commission d'appel. Et puis, si en commission d'appel, vous arrivez avec cet argent, bah forcément, la commission d'appel va invalider les sanctions de la première commission. Et puis, normalement, c'est le dernier moment où on peut amener des nouveaux éléments à la commission d'appel. Donc là, je ne sais pas ce qu'il en sera de Bordeaux devant le CNOSF, mais normalement, on ne prend plus en compte les nouveaux éléments, les nouveaux fonds récoltés après la décision de la commission d'appel. Mais l'avenir nous dira ce qu'il en est. Donc la DNCG, en fait, elle a pour rôle de dire, notamment la première commission, et c'est qu'en règle générale, ils traitent les dossiers les plus compliqués le plus tôt possible pour laisser au club justement le temps d'aller chercher l'argent, de façon à dire au club, bon bah vous avez besoin de X millions d'euros pour la saison prochaine pour passer, entre guillemets, rester dans votre championnat ou être promu, eh bien, allez les chercher en attendant de passer dans la commission d'appel. C'est ça le fonctionnement objectif de la DNCG, c'est pas de sanctionner à tout prix les clubs, c'est de garantir ce qui pourrait être une forme de bien commun qui est la stabilité financière du championnat sur la saison à venir.
Nadine Bermit, vous restez avec nous, chercheuse universitaire et spécialiste notamment de ces gendarmes financiers. Un mot, les grandes gueules sur votre avis. Marie Martineau.
Moi, je pense qu'il est nécessaire, vraiment nécessaire, qu'il y ait des instances de contrôle partout. Malheureusement, c'est comme ça. Enfin, je veux dire, on n'est pas chez Oui-Oui, quoi. Donc, d'autant plus à ce niveau-là de financement. On parle de millions d'euros. Les 94% de la population, c'est même pas ce que c'est que 100 000 euros, quoi. Donc là, on est sur des montants énormes. Et il est bien que l'État puisse avoir un regard, un contrôle, fasse attention, comme le disait Simon, à ce qu'il n'y ait pas des pots de vin, des mallettes de cash, des trucs un peu bizarres. Enfin, on est en France. Maintenant, là où je suis surprise, c'est les fameuses sanctions. Quand j'ai donc compris que Bordeaux serait relégué en Ligue 2, parce que sportivement, c'était ça qui leur arrivait, je tombe sur Benoît Boutron au troisième étage et je lui dis « Ah, bah, t'es content, dans ton émission, tu vas pouvoir parler de Bordeaux. » Et il me dit « Bah non, carrément pas. Ils vont certainement descendre encore plus bas à cause de la DNCG. » Donc, je n'ai pas trop compris pourquoi on est si radical et pourquoi les mesures prises sont si dures de quand même les faire descendre encore plus bas. National 1 pour Bordeaux, normal. Ça me paraissait juste pas en phase.
Ce qui est génial, c'est que il y a plein de sujets qui, pour la première fois, on les aborde vraiment, ce qu'est la DNCG. C'est-à-dire que la DNCG, en fait, elle évalue ton budget, et le budget, c'est un budget prévisionnel. C'est-à-dire que pendant très longtemps, ta tante, elle arrivait, elle faisait un chèque, il pouvait être en bois. Et en fait, avec ce chèque de prévisionnel, ça veut dire que tu avais cette promesse de pouvoir payer. Et tu passais, et tu arrivais en pleine saison, et qu'en fait, le chèque de tata, ben, il était en bois. Et on arrivait finalement dans...
Ça arrive souvent, voilà, malheureusement.
On arrivait dans un truc, dans les budgets prévisionnels, et ça, c'est l'argent de l'audiovisuel qui a créé ça. C'est-à-dire que les clubs anticipaient des budgets sur l'argent qui allait arriver. Ils anticipaient des constructions de stades sur de l'argent, oui, qui n'était pas arrivé. Ils ont commencé en plus à spéculer sur la valeur des joueurs en arrivant à des sommes où la valeur du joueur n'est plus récupérable, en fait.
Mais
ça veut dire qu'elle dépasse... On marche sur la tête. Parce qu'un club, c'est pas seulement du prévisionnel, ce n'est pas seulement de l'anticipation. Dans un club comme Bordeaux, il y a des choses qui sont factuelles, où il y a 300 personnes qui travaillent, et que là, c'est comme une société, c'est-à-dire que le moment où ils ne sont pas payés, ils sont tous au chômage.
Mais ça veut dire
et donc,
que
ce qui fait que le jour où on a eu une grosse crise, Mediapro, où on a anticipé des achats sur des choses qui ne sont finalement pas arrivées, tous les clubs se sont retrouvés endettés. Et aujourd'hui, quand tu dis que ton club, il a de la valeur parce que tu as des joueurs à l'intérieur et que tu peux les vendre, Saint-Etienne a réussi à le faire, très très bien. Mais en fait, cette valeur, elle est subjective. Elle est subjective pour une raison. Ça veut dire que le moment où tu sais que ton club, il est en difficulté, même si ton joueur...
Mais c'est la loi du marché,
non,
Olivier.
Et bah partout, justement, partout. Et bah écoute bien la loi
du... C'est bien,
et bah écoute la loi du marché. Mais... Même si ton joueur, il vaut 50 millions d'euros, le moment où ton entreprise, elle est en difficulté, la spéculation crée ça, c'est qu'on achètera ton joueur en dessous, on va attendre que tu t'écroules pour acheter le joueur moins cher.
Là, tu parles de pognon, je suis désolé, tu
non,
encore une fois,
non,
on parle d'un club de... Mais je suis désolé, moi je suis de Bordeaux et je suis pas un des plus furieux, mais il y a des, mais y a des gens dans la ville... Non, mais je suis désolé parce que on parle d'une gestion comme d'une épicerie, voilà. Il y a du pognon dans les caisses, il n'y en aura pas assez, on aura de quoi faire des stocks.
Laisse-moi finir.
L'amour du maillot, tu peux pas... La DNCG, elle peut pas savoir si ça va pas recréer la Ligue 2, un lien entre la ville et le club, si ça va pas créer un engouement peut-être encore plus fort que ce qu'il y avait en Ligue 1.
Il y a des règles. C'est-à-dire que chaque club, quand il débute, la Ligue et toutes les ligues mettent une règle avec un cahier des charges. C'est-à-dire que si tu veux participer à la Ligue 2, il faut que sur ton compte, tu aies un certain budget. Le problème, c'est que quand tu as de la dette, comme eux l'ont actuellement, tu ne peux pas fournir les pièces qui vont pouvoir éponger cette dette. Donc à ce moment-là, il y a un équilibre entre tous les clubs, et le club qui ne le respecte pas, eh ben en fait, c'est dans les règles, c'est dans les statuts, eh ben il ne peut pas rester dans la division. Tout simplement.
Nadine Dermit, j'ai une question pour vous, parce que évidemment, à RMC, on écoute les conférences de presse, on essaie de s'intéresser au sujet. J'ai bien écouté les dirigeants de Bordeaux, j'ai bien écouté aussi les dirigeants de l'Élan Béarnais. Les deux crient à l'injustice, limite au complot. Est-ce que ça, vous qui avez étudié des cas sur la DNCG, ça arrive régulièrement, voire tout le temps ?
Oui, c'est régulier. à chaque fois qu'il y a un club qui est rétrogradé, il est toujours dans cette logique-là. En fait, les règles s'appliquent à tous, mais on est toujours d'accord pour qu'elles s'appliquent plutôt aux autres qu'à soi. Et c'est vrai que la difficulté d'un club qui prendrait le départ du championnat et qui, en cours de saison, fait malheureusement faillite, bah, c'est pas comme une entreprise classique. Là, pour le coup, ça met en péril le championnat, la valeur du championnat, le décompte des points sportifs. Par conséquent, c'est ça qui fait la grosse différence par rapport à une entreprise lambda et un chef d'entreprise qui prend des risques parce que c'est son rôle. C'est que là, les risques qui seraient pris éventuellement par Bordeaux impactent l'ensemble des clubs du championnat.
Et n'en déplaise
que ça existe.
Et Nadine, n'en déplaise à Simon Dutin, on est d'accord que la DNCG ne va pas regarder dire le côté historique d'un club comme les Girondins de Bordeaux en se disant oui mais regardez c'est un club on peut pas les couler, ça la DNCG n'en a que faire.
Elle avait déjà rétrogradé les Girondins, je crois, dans les années 90. Il me semble après le départ de Claude Bèze et
exactement. Lorsque,
voilà, il me semble.
Et ils étaient remontés tout de suite après. Nadine.
Tout à fait. Ça a été le premier club rétrogradé par la DNCG, les Girondins de Bordeaux en 90. Mais effectivement, on peut pas dire ça. La DNCG sont que des professionnels du chiffre, des avocats, des gens qui vont effectivement se positionner sur les comptes. Et c'est leur rôle, c'est ce qu'on leur demande. On leur demande pas de prendre en considération effectivement l'ancienneté d'un club parce qu'on compte que le bassin de population du club, que la ferveur autour du club puisse générer des recettes. Ça, la DNCG en tient compte, mais elle n'en tient compte que sous cet aspect financier.
Merci beaucoup Nadine Dermide d'avoir été avec nous. C'était très clair et très intéressant. Chercheuse donc universitaire et notamment de nombreuses parutions concernant la DNCG. Merci d'avoir été avec nous et à bientôt sur RMC. Merci aussi à Valentin Jamin pour ses précisions sur les Lambernais et sur les Girondins de Bordeaux. Évidemment, toutes les informations à suivre sur rmcsport.fr. On se retrouve dans quelques instants pour vous parler un petit peu de golf dans cette émission. Tiger Woods s'est terminé à The Open. Les larmes du tigre, ça vous intéresse ou pas? A tout de suite sur RMC.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport. RMC, les grandes gueules du sport, 9h midi,
Jean-Christophe Drouet.
11h50 de retour dans les grandes gueules du sport, votre émission le samedi, le dimanche de 9h à midi. Alors durant la pub, je vous dis tout, hein, chers auditeurs, on vient de faire le débat sur la DNCG et je viens de recevoir un coup de fil de Roland Courbis qui était fou furieux, non pas contre vous.
Moi je me fais pas engueuler par
contre. Non, pas du tout, mais par rapport à la DNCG. Voilà, il viendra à 11h45 nous dire pourquoi il est fou furieux. Roland Courbis sera en direct dans les grandes gueules du sport. C'est ça aussi cette émission, on réagit en direct, on nous appelle, je veux réagir, bien sûr mon Roland, ce sera 11h45. Tout de suite, on s'en fout pas, sachez qu'à partir de 11h, on parlera du Paris Saint-Germain, les Parisiens qui vont s'envoler là dans quelques minutes pour le Japon, pour leur tournée, avec des joueurs qui sont restés à Paris, le traitement des lofters, choquant ou pas choquant.
Allô.
Le zapping des GG. Le retour.
Allez, des informations à vous donner, à vous de me dire si ça vous intéresse ou non. La première, c'est terminé pour Tiger Woods à The Open. On s'en fout pas. Simon Dutin.
On s'en fout pas.
Mais évidemment,
non,
merci.
On s'en fout pas non plus.
Ok. Olivier Giraud.
Bah non, on s'en fout pas.
Alors, c'est terminé pour Tiger Woods, donc à The Open, le quatrième majeur de la saison, incapable de passer le cut après le deuxième jour de compétition sur le mythique parcours de Saint-Andrews. Tiger Woods a mis de côté l'idée d'une retraite sportive malgré cet échec, mais on le sait, ou en tout cas je vous l'apprends, il est assez courant qu'une légende se retire justement à Saint-Andrews, et la prochaine fois que The Open accueillera, eh bien, que Saint-Andrews accueillera The Open, ce sera en 2030. Est-ce qu'on va revoir Tiger Woods d'ici là? En tout cas, lui, il a mis de côté la retraite en conférence de presse. On va l'écouter dans quelques instants. Il arrive, si la régie est prête. Oh là, ils ne sont pas prêts pour Tiger Woods. On va l'écouter dans quelques instants, ne vous inquiétez pas. Il sera là avec nous, notre Tiger. Olivier.
Bah, écoute, c'était l'adieu. C'est sur un des plus gros tournois, des tournois où il était connu et reconnu. C'était important de faire cette... C'est pas une tournée d'adieu, mais en tout cas pour The Open, c'était important pour Tiger Woods d'y participer. Je pense pas qu'il avait des prétentions à faire des gros résultats, mais l'émotion était à la hauteur de sa présence, et que je trouve que là, c'était pas sportif, c'était vraiment une communion avec un public qui, tout simplement, disait au revoir à une des plus grandes stars du golf.
Ok, on va l'écouter maintenant, Tiger Woods. Merci la régie.
Yeah, you know, who knows?
Qui sait si ce sera mon dernier Open à St Andrews, si c'est aussi long, si je serai capable de concourir physiquement à ce niveau d'ici là. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je voulais participer à ce tournoi. Je ne vais plus jamais jouer un calendrier complet. Mon corps ne me le permettra pas. Si j'ai la chance d'en jouer encore un de plus, ça serait formidable, mais il n'y a aucune garantie.
C'est dans 5 ans, hein, le prochain Saint-Andrews pour The Open. Pour toi, Simon.
Bah, c'est une des plus belles histoires du golf, Woods à Saint-Andrews, parce que bah, Woods, c'est la quintessence du sportif américain, du champion américain, et pourtant, son parcours préféré, c'est le Old Course à Saint-Andrews, c'est le temple du golf mondial. Mais alors, pour ceux qui connaissent pas le golf, c'est-à-dire, il y a quand même un contraste entre ces parcours de bord de mer des îles britanniques qu'on appelle les links et les parcours ultra manucurés de Floride ou de Californie aux États-Unis et Tiger Woods qu'on pourrait penser être plus enclin à dévorer les parcours sur lesquels américains qui sont faits pour scorer très très bas et pour faire taper des coups ultra spectaculaires, et ben lui il a déclaré son amour pour ce temple un peu hors du temps du golf mondial. C'est pour moi ça, bah voilà, ça symbolise ce qu'est le ce jeu de golf, et je l'ai trouvé très très humain. On lui a souvent reproché d'être un petit peu inaccessible et tout, les larmes de Woods, cette ovation, Olivier le rappelait, alors qu'il termine à un score quand même catastrophique de plus 9 en deux tours. Bon, ouais, c'est une belle histoire.
Et tu l'aurais pris toi le plus 9, hein.
Ah, le plus 9 je le prends tous les jours sur deux jours, hein, parce que hier il fait plus 3, évidemment je le prends tous les jours.
Ok, Marie Martineau, on reparlera de Tiger Woods demain, donc je te donnerai la parole à cette occasion. Deuxième information dans le zapping des GG, c'est des vacances offertes par un sponsor pour le dernier du général du Tour de France, évidemment. On s'en fout pas, Olivier Giraud.
Je passe.
Tu passes, Marie Martineau.
Ben, moi, je veux que tu nous racontes le clin d'œil, mais a l'air assez rigolo.
Ok, pour toi, mon cher Simon. On s'en fout. Ok, bah pour toi Marie et pour vous les auditeurs, ça m'intéresse moi. Nouveau partenaire de la Grande Boucle, lastminute.com promet d'offrir des vacances au dernier du classement général. La destination et le montant total n'ont pas encore été annoncés, mais s'il le souhaite, le coureur en question aura aussi les honneurs d'une petite cérémonie au départ de cette dernière étape. Ce sera le 24 juillet à Paris. Sachez qu'à ce jour, le dernier du classement est français, il s'appelle Anthony Turgis de Total Energy et il est à 3h21 et 5 secondes de la tête.
Bah, il doit passer un sale tour, hein. C'est long le tour, donc quand t'es déjà à 3h à la fin de la deuxième semaine, je pense qu'il appréciera les vacances. Au-delà de ça, je trouve que c'est un très bon coup de com' de last minute, le jeu de mots est fantastique, voilà, on en reparlera pour le dernier jour sur les champs et certainement qu'il y aura des postes sympas d'une destination idyllique d'un athlète.
Ils vont se battre pour finir dernier maintenant, c'est ça quand bah, il y a les 5 gardiens, vas-y à toi, vas-y, passe devant.
Il y a Calibéouane qui a 2 minutes et qui est avant-dernier, qui est à 2 minutes d'Anthony Turgis.
Ça joue.
Dans la tête d'un sportif professionnel, on peut se battre comme
non,
ça pour être dernier ou pas ?
Ça va être l'enjeu de pas, parce que tu peux, si t'es vraiment hors du temps réglementaire, tu es éliminé. Donc ça va être tout l'enjeu de ne pas basculer.
Il faut se crevaison, des trucs.
Que ce soit dans un camping au pied du Mont Ventoux ou à l'Alpe d'Huez, quoi, un endroit où ils sont justement à l'aise pour pratiquer la bicyclette.
En tout cas, sachez que pour la dernière étape, il y a un signe distinctif quand on est lanterne rouge comme ça. Ce n'est pas le dossard rouge, parce que ça, il est réservé aux plus combatifs de la veille, mais c'est un dossard rose. Voilà, pour le dernier, on verra si c'est un Français, Anthony Turgis. Ce sera une maigre consolation pour nous Français dans ce Tour de France. On espère en tout cas qu'on gagnera quelques étapes. On en reparlera demain des Français sur le Tour. 10h56, on se retrouve dans quelques instants pour évoquer le Paris Saint-Germain, la tournée au Japon, et c'est l'after, ces Parisiens qui sont restés à Paris. Choquant ou pas choquant, il y a quelques surprises, hein, parce qu'il y a quelques l'after qui devaient rester à Paris, et finalement, bon, pour faire le nombre, ils ont embarqué avec le reste du groupe. A tout de suite sur RMC.